tribunal pas comme les autres qui s'est réuni au Cap il y a quelques semaines. À la barre, des victimes venues du Kenya, d'Ouganda, du Malawi, du Mali et d'Afrique du Sud pour raconter leur histoire. Dans le box des accusés, le réchauffement climatique. Un simulacre de procès organisé par l'ONG Oxfam pour faire entendre les voix des plus faibles aux responsables politiques à moins de 2 mois de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Copenhague au mois de décembre.
Dans la salle, près de 300 personnes représentant d'ONG, des scientifiques, des agriculteurs, des pêcheurs locaux venus écouter les témoignages des fermiers du continent qui subissent tous les jours les conséquences du réchauffement climatique.
L'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix pour sa lutte contre l'apartheid, a décidé de s'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc lui qui préside le jury d'experts du climat. Il a ouvert la séance dans son aube violette. Clémence Petit-Perrault était dans la salle.
Bienvenue à cette audience du tribunal du climat qui se tient aujourd'hui. C'est un événement panafricain à la portée symbolique. Vous vous souvenez sans doute que le Cap était la ville où était basée la commission Vérité et Réconciliation créée en 1995 pour témoigner des terribles violations des droits de l'homme qui ont eu lieu sous l'apartheid. Aujourd'hui, nous allons entendre des témoignages et des preuves d'une autre immense injustice. Le changement climatique qui a un impact très important sur la vie de ceux qui en sont le moins responsables.
La voix de l'archevêque Desmond Tutu pour ouvrir cette séance du tribunal du climat. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix pour son rôle dans la lutte contre l'apartheid, est désormais engagé dans un autre combat, celui contre le réchauffement climatique. Les 5 témoins venus raconter leur histoire sont des fermiers venus des 4 coins d'Afrique et tous sont durement affectés par le changement climatique. Pendant 26 ans, Constance Okolette a cultivé une petite parcelle de 5 hectares située dans l'est de l'Ouganda jusqu'à un jour de 2007 où une inondation sans précédent a tout emporté sur son passage.
Quand les inondations ont commencé, elles ont emporté tout le village et nous avons dû nous enfuir. Quand nous sommes revenus, nous nous sommes rendus compte que rien n'avait été épargné. Nos maisons, nos animaux, nos plantations, nous sommes repartis de zéro. J'ai demandé à Dieu, c'est toi qui as fait ça? Pourquoi? J'aurais pu en pleurer. Tous nos biens avaient disparu, il ne nous restait rien. Et puis en avril cette année, il y a eu une autre inondation. Il a plu pendant un mois sans arrêt. Nos maisons ont été emportées à nouveau et nous sommes repartis encore de zéro. Juste après, une réunion a été organisée à Kampala et je leur ai demandé quelle est la cause de tout ça. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas la faute de Dieu. Les pays riches qui sont la cause de tout ça, je les supplie d'arrêter ou au moins de réduire leurs émissions car ils nous tuent. Nous sommes en train de mourir pour eux.
Inondations et sécheresses inhabituelles, cycle des saisons perturbés, les récits se succèdent et se ressemblent. Au fil de la journée, les témoins décrivent les terribles conséquences du changement climatique sur leur vie quotidienne. Caroline Malema cultive des bananes et du manioc au Malawi.
Normalement, dans ma région du Karonga, nous avons de la pluie en novembre et décembre. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. La pluie commence en janvier, s'arrête en mars, et cette année en mars, nous avons eu des inondations. Après les inondations, nous avons bien essayé de planter, mais nous avons eu une période de sécheresse. Avant tout ça, c'était plus simple. Nous avions de petits jardins, mais avec le changement climatique, nous ne pouvons plus rien récolter. À cause de ça, les hommes vont maintenant sur les berges des fleuves pour couper les arbres, pour faire du bois de chauffage ou du charbon, et cela entraîne de la déforestation. Ensuite, nous, les femmes, souffrons aussi car nous n'avons plus nos jardins. Certaines ont commencé à se prostituer pour survivre et beaucoup ont attrapé le sida. Aujourd'hui, dans le Karonga, le nombre de malades du sida est très élevé et par conséquent, on commence à avoir beaucoup d'orphelins.
Le but de ces séances, organisées par Oxfam, est de relayer des histoires concrètes auprès des chefs d'État qui seront présents à Copenhague en décembre, comme l'explique la présidente honoraire d'Oxfam, Mary Robinson.
J'espère que les voix que nous avons entendues, celles de ces témoins du changement climatique qui sont si durement touchés, seront écoutées à Copenhague. Il en va de notre responsabilité d'assurer que ces témoignages sont au cœur des discussions. Nous devons obtenir un accord ambitieux et juste à Copenhague. Nous n'avons plus de temps à perdre. C'est pour ça que cette campagne doit prendre de l'ampleur. La société civile est le moteur essentiel de la prise de décision politique et jusqu'à présent, la pression n'a pas été assez forte.
Un nouveau concept est en train d'émerger de ce genre d'événement, celui de justice climatique, selon lequel les pays du Sud n'ont pas à payer le prix du développement de ceux du Nord, comme l'expliquent Desmond Tutu et Mary Robinson.
D'un côté, vous avez ceux qui peuvent se protéger contre les aléas du climat. Et au sud, là où la majorité des catastrophes naturelles arrivent, les gens n'ont pas les moyens de s'en protéger. La seule solution pour nous en sortir est de réaliser que nous sommes interconnectés, reliés. Dans le futur, personne ne va pouvoir prospérer sans se soucier des autres.
Ce que vous venez de dire à propos de notre interconnexion les uns avec les autres est au cœur du concept de justice climatique. D'abord, il y a l'inégalité dans la répartition de la production du gaz à effet de serre sur la planète. Les 50 pays les plus pauvres ne produisent que 1% des émissions mondiales. Ensuite, il y a le droit au développement qui doit être garanti pour tous les pays. Ayant dit cela, nous allons voir une augmentation de la population de 6,9 milliards à 9 milliards en 2050. Avec ces chiffres, si les pays en développement ont à l'avenir une production de CO2 égale à la nôtre, c'en est fini de la planète. Et cela fait partie de cette interconnexion. Nous devons assurer que ces pays se développent en produisant moins de CO2 et les aider à s'adapter aux effets du changement climatique. Je pense que c'est le plus grand défi en matière de justice et de droits de l'homme aujourd'hui à l'échelle mondiale.
Pour soutenir les victimes du changement climatique et faciliter un développement responsable dans les pays du Sud, de nombreuses ONG et gouvernements africains demandent l'adoption à Copenhague d'un fonds d'adaptation de 150 milliards de dollars. Jessica Wilson de l'ONG EMG.
Nous voyons cela comme une espèce de dette écologique. Les difficultés que rencontrent ces gens ne sont pas causées par des cycles naturels, elles sont les conséquences de la pollution. Cette pollution a été créée par des personnes qui en retirent un profit. Donc il y a là un véritable enjeu de justice, et le présenter comme le paiement d'une dette plutôt que comme une aide apportée par les pays développés me paraît essentiel pour changer les dynamiques de pouvoir. Ensuite, il est essentiel d'écouter ce que les gens sur le terrain demandent et disent. Donc cela n'a rien à voir avec le fait de donner de l'argent à un projet très sophistiqué, mais vraiment écouter ce que les gens demandent.
Un fonds qui, pour Irungu Houghton, directeur d'Oxfam pour l'Afrique, permettrait à l'échelle locale aux agriculteurs de reprendre leur destin en main.
D'abord, cela permettrait aux gouvernements de ces pays de mettre en place des programmes publics qui profiteraient à des gens comme Caroline Malema, qui est venue aujourd'hui ici depuis le Malawi. Le groupe de femmes qu'elle gère pourrait ainsi avoir accès à un petit financement de départ qui leur permettrait de créer une nouvelle activité. Ce fonds serait donc un outil très important et concret pour aider ces communautés à s'adapter au changement climatique.
Un fonds qui risque d'être bien difficile à obtenir à Copenhague et qui n'est bien sûr pas suffisant pour combattre le réchauffement climatique. Irungu Houghton.
Je pense que les leaders africains ont été très clairs sur le fait qu'ils n'attendent pas que de l'argent suffise à compenser le mode de vie irréaliste des pays du Nord. Et si c'est tout ce qui sera proposé à Copenhague, alors il n'y aura pas d'accord. Réduire les émissions de 40% est une précondition incontournable. Donc ce n'est pas juste un appel pour plus d'argent, mais pour un véritable changement d'attitude qui est pour l'instant en train de menacer le mode de fonctionnement de la planète.
Thank you. la fin des témoignages, Desmond Tutu a conclu la séance en usant de son légendaire humour pour rappeler que le réchauffement climatique est le problème de tous, au nord comme au sud.
C'est une question morale. C'est ce que nous disions à propos de l'apartheid. Vous vous positionnez soit dans le camp des bourreaux ou dans celui des victimes. Et si vous ne supportez pas les victimes, vous allez vous-même devenir une victime. Ce problème est notre problème à tous. Ça va ne servir à rien d'avoir des milliards de dollars. Vous allez vous noyer dedans si vous n'agissez pas. Nous sommes en train de couler ensemble. Certains dans les BMW et d'autres à Dodan, mais nous y allons ensemble.
Roger Stellmann a témoigné au procès. Sa ferme d'Oberlarkop est située dans la région semi-désertique du Cap Nord. Il faut parcourir plus de 2 heures de piste pour atteindre la ville la plus proche.
C'est sur ces terres arides et isolées que Ragel et Stellmann et sa famille cultivent le rooibos, un thé rouge aux vertus antioxydantes et très recherché en Europe et aux États-Unis. Une activité qui allait florissante jusqu'à ce que les aléas du climat viennent la mettre en danger. Clémence Petit-Perrault s'est rendue sur place.
Soleil déjà chaud d'octobre, Rachel gravit une colline rocailleuse avant d'arriver sur une petite parcelle couverte de rangées de buissons aux fines tiges vert tendre d'environ 1 mètre de haut. À 2 mois de la récolte du thé, les choses se présentent plutôt bien. Heureusement pour Rachel et sa famille qui se remettent à peine d'une longue sécheresse.
Nous sommes sur la ferme d'Oberlarkop ici et vous pouvez voir que les champs sont encore assez verts. Pas autant que nous souhaiterions, bien sûr, mais assez pour que nous puissions récolter et gagner notre vie. Entre 2003 et 2006, nous avons eu une grande période de sécheresse et tout le thé est mort sur pied. Nous n'avions pas non plus d'eau à boire, car toutes nos sources étaient à sec. Au point que, pour faire boire nos bêtes, les moutons, nous devions les conduire dans une ravine qui se trouve à 7 km de la ferme. Quand vous plantez du rooibos et que cette petite pousse meurt sous vos yeux, car elle ne supporte pas le soleil ni la sécheresse, ce sont tous vos efforts, tout votre travail et toute votre sueur qui sont perdus. Et ça, c'est très douloureux.
À cause de la sécheresse, Rachel et sa famille ont perdu 2 tiers de leur récolte de rooibos pendant 3 années consécutives et commencent juste à retrouver une production normale. Après son inspection des champs, Rachel passe saluer son beau-père, Ompi Hen, qui est agriculteur depuis 48 ans. Le vieil homme est en train de boire une tasse de rooibos dans sa hutte avant d'aller surveiller son troupeau de moutons. Pour lui, les conditions climatiques actuelles sont un phénomène sans précédent.
Dans le passé, aussi loin que je me souvienne, nous avions parfois des années plus sèches, mais il pleuvait toujours un peu, et parfois même après la saison des pluies. Dans les années 60, nous avons eu beaucoup de pluies, mais depuis les années 2000, les pluies ont diminué de façon dramatique.
Période de sécheresse, suivie de pluies brèves mais très intenses qui ne pénètrent pas la terre, température extrême allant du gel à 45 degrés. Face à ces phénomènes climatiques nouveaux, les agriculteurs du sud Bockefeld ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont notamment mis en place dans chaque ferme un système qui permet de mesurer les précipitations. Bennett Hesselman est le mari de Rachel.
S'il a plu durant la nuit, je viens le matin vers mon installation qui récupère de l'eau de pluie à l'extérieur de la maison. Je recueille l'eau qui est dans le conteneur et je la verse dans un petit récipient en verre. Et comme ça, je peux voir de façon très précise la quantité de pluie qui est tombée durant la nuit. Ici, par exemple, on peut voir que c'est 10 mm. Durant la sécheresse, les rares fois où il pleuvait, je mesurais 2 ou 5 mm. Il y avait extrêmement peu de pluie et tout était très très sec.
Depuis 2006, tous les 3 mois, les relevés de Bennett sont étudiés lors d'ateliers sur le changement climatique qui réunissent les agriculteurs de la région. Bettina Köhler, directrice de l'ONG Indigo, qui facilite ses ateliers.
Après la sécheresse, ils se sont dit, ce qui vient de se passer est complètement anormal. Nous devons nous concerter pour voir comment nous pouvons réagir. Donc, tous les trois mois, nous nous réunissons avec les agriculteurs du Zuidbokkerveld. C'est vraiment l'occasion de réfléchir ensemble sur ce qui se passe. Les fermiers décrivent ce qu'ils ont remarqué en matière de climat. Ils partagent les données qu'ils ont récoltées et les expériences qu'ils ont pu faire sur leur ferme en matière de climat. Et nous essayons ensemble de mettre en place des stratégies pour les aider à faire face aux défis futurs.
Harel et Bennett sont désormais dans un champ plein de buissons de rooibos sauvages qui poussent naturellement dans la région. Depuis la sécheresse, ils ont commencé à cueillir de façon modérée le rooibos sauvage pour compenser les pertes sur le reste de leur récolte.
Le rooibos sauvage a aussi besoin d'eau, mais vous pouvez voir que ses pieds sont bien portants. S'il fait plus sec, il survit mieux que le rooibos planté. Il n'y a que la couleur qui change un peu.
Les facultés d'adaptation de Harel et Bennett représentent pour Bettina Köhler une réponse beaucoup plus efficace aux aléas climatiques qu'une solution venant de l'extérieur.
We don't have any solid evidence yet.
Nous n'avons pas aujourd'hui de preuves concrètes sur la façon dont le climat est en train de changer. C'est pourquoi nous surveillons les températures et les précipitations. Ce que nous pensons, c'est que les conditions climatiques dans la région sont en train de devenir plus extrêmes. Avec la présence de températures plus élevées, mais aussi plus basses, potentiellement, une saison des pluies commence en retard, les averses sont plus fortes et plus violentes, mais moins régulières. Mais pour dire de manière scientifique qu'il y a un réel changement dans le climat, nous avons besoin de données sur le plus long terme pour pouvoir dire c'est la façon dont les choses ont changé et voilà comment elles vont changer dans le futur. Donc, étant donné que les projections elles-mêmes ne sont pas complètement vérifiables, notre approche est que nous ne voulons pas dire aux agriculteurs qu'ils doivent s'adapter à plus de pluie ou de sécheresse ou de gel, car nous n'en savons rien. Donc l'idée est la suivante, au lieu de recommander des solutions techniques, nous voulons augmenter la résistance des agriculteurs pour que leur agriculture soit moins fragile et donc plus performante, que le climat devienne plus sec ou plus humide. On veut augmenter cette faculté d'adaptation en poussant les agriculteurs à prendre plus d'initiatives pour régler leurs problèmes, et cela notamment dans le cadre d'un réseau où ils peuvent avoir accès à l'information, apprendre à trouver des solutions, mais aussi à mettre en place leurs propres expériences pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si cela finit par marcher, cela leur permettrait de régler leurs problèmes liés à l'agriculture, mais aussi leurs problèmes de vie quotidienne, les problèmes sociaux et les conflits.
La séance du tribunal du climat à laquelle a participé Harel l'a beaucoup marquée car elle s'est soudain rendue compte qu'elle n'était pas la seule à souffrir du changement climatique.
Les histoires que j'ai entendues m'ont fait beaucoup de peine car elles étaient pleines de souffrance, de sécheresse, d'animaux qui meurent de soif. Ça m'a aussi mise en colère d'apprendre que la plupart des gouvernements ne font pas assez pour soutenir les agriculteurs. Maintenant, quand j'ai un moment, je m'arrête. Et je repense à toutes ces histoires et ça me fait beaucoup de peine.
Pour Bettina Köhler, ce genre de manifestation représente avant tout un moyen de mobiliser les énergies.
I think hearings as we had they are very important.
À mon sens, des événements comme ces réunions sur le climat sont très importants pour sensibiliser les gens. Pour Raguel, par exemple, c'était une occasion de partager son histoire. Et cela lui donne énormément de force de savoir que finalement, les gens sont intéressés par ce que les agriculteurs du Zuidbokkerveld font. Et je pense qu'une des clés de la prise d'initiative et de l'acquisition du savoir pour ces communautés autrefois isolées réside dans le fait de savoir qu'elles font partie d'un grand réseau à l'échelle mondiale.
What used to be a very isolated community.
C'était le procès du réchauffement climatique en Afrique du Sud, un reportage de Clémence Petit-Perrot réalisé par Alain Bleu.
C'est pas du vent.
C'est maintenant l'heure du billet de Serge Auru, directeur France du WWF. Bonjour Serge.
Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Arnaud.
Bonjour. Alors, vous avez décidé, Serge, de nous parler aujourd'hui de l'orpaillage.
Eh bien oui, en septembre 2008, j'ai eu la chance de me retrouver comme Indiana Jones. Vous savez, Indiana Jones, j'étais en Amazonie et je me suis rendu auprès de notre équipe du WWF en Guyane, qui effectue un superbe travail. J'ai découvert un pays fabuleux, grand comme le Portugal. Le plateau des Guyanes héberge une faune et une flore d'une incroyable biodiversité. Savez-vous que la diversité en plantes supérieure sur un hectare en Guyane est supérieure à la diversité trouvée sur l'ensemble de l'Europe continentale ? Vous ne le savez pas ?
Non, on ne le savait pas.
Eh bien, hélas, depuis quelques années, la Guyane subit une ruée vers l'or. La crise financière a fait du métal jaune une valeur refuge qui vaut, tenez-vous bien, 28 000 euros le kilo d'or fin. Le WWF effectue régulièrement des survols aériens des nombreuses exploitations illégales qui se développent en plein parc amazonien et j'ai pu moi-même constater, vu du ciel et sur le terrain, leurs impacts négatifs sur les écosystèmes forestiers et aquatiques.
Cet orpaillage illégal est alimenté par l'exploitation de la misère.
Vous avez raison, là-bas en territoire français et européen, c'est vraiment la loi de la jungle qui prédomine. 10 à 15 000 travailleurs clandestins en provenance du Brésil ou du Suriname travaillent dans des conditions épouvantables dans plus de 500 chantiers illégaux. Je les ai croisés dans la forêt, ces garimpeiros, au regard terrorisé qui tentent de survivre dans des conditions épouvantables à la recherche du filon. C'est un véritable fléau environnemental, mais aussi social, sanitaire et économique. Le trésor guyanais de biodiversité est mis en péril par les tonnes de mercure utilisées pour amalgamer les particules d'or dans les rivières. Pour récupérer un kilo d'or, 1,3 kg de mercure est employé par ces chercheurs d'or. Sous l'action de l'acidité de l'eau, le mercure se transforme en un dérivé dangereux, le méthylmercure.
Méthylmercure qu'on retrouve dans toute la chaîne alimentaire.
Et oui, il provoque des troubles nerveux et des malformations. Leur paillage illégal impacte plus de 1300 km de cours d'eau en Guyane. Un taux d'imprégnation au mercure supérieur à la norme de l'Organisation mondiale de la santé a été relevé chez plus de 70% d'enfants amérindiens Wayanas du Haut-Maroni. Nous estimons que chaque année, 5 tonnes de mercure sont déversées dans les milieux naturels de Guyane.
Et l'insécurité des populations et aussi la déforestation s'amplifient dangereusement.
Oui. Au total, la production illégale d'or a représenté jusqu'à 10 tonnes par an et le marché légal en produit 3. Alors pourquoi ? Répression trop irrégulière de ce trafic avec les dispositifs militaires, manque de moyens, vu l'immensité du territoire, accord bilatéral non appliqué dans la lutte contre l'exploitation aurifère. Lacunes juridiques et non application de la loi de garantie qui profite à leur sale. Alors, à la prochaine Saint-Valentin, exigez de votre amoureux ou de votre amoureuse, de l'or équitable, comme le chocolat, le coton et le café.
Merci Serge Roux.
À mardi prochain. C'est pas du vent. Demain partira à la rencontre des aborigènes d'Australie avec un reportage de Caroline Lafargue.
À demain donc, même planète, même heure.